voix nue. Cette semaine, Isabelle Lasserre rencontre Hubert Védrine. Ce soir, Bosnie, Rwanda, les polémiques françaises.
Hubert Védrine, bonsoir. Hier, nous avons parlé des années que vous avez passées auprès de François Mitterrand à partir de 1981. Nous avons revisité ensemble la fin des années 80, la chute de l'URSS et le basculement du monde. Hubert Védrine, en 1992, en pleine guerre de Bosnie, François Mitterrand effectue une visite surprise à Sarajevo. C'était un voyage risqué, mais qui a aussi été ambigu à l'époque, puisque beaucoup ont reproché au président de la République d'avoir ainsi sauvé les Serbes, qui étaient les agresseurs, d'une intervention militaire en forçant l'ouverture d'un couloir humanitaire. Comment vous avez vécu cette période ?
Alors, il y a eu une controverse, en effet, sur la Yougoslavie, mais il ne faut pas oublier que il y avait en tout cas une tradition d'intervention de la part de la France, compte tenu des liens historiques avec beaucoup de pays, certains accords, l'idée que la France a un rôle particulier à jouer pour des raisons universalistes ou humanitaires, et puis des moyens militaires importants que beaucoup d'autres pays n'ont pas. Et la Yougoslavie, c'est un élément parmi d'autres. D'autant que la controverse, dans certains cas, elle a lieu sur l'intervention qui a eu lieu, qui n'aurait pas dû avoir lieu, et la Yougoslavie, c'est plutôt l'inverse, la controverse. Il fallait intervenir plus. Donc c'est pas toujours les mêmes controverses en réalité sur les interventions. Dans la présidence de Mitterrand, il y a d'abord une intervention au Liban, dès le début, dans le cadre de forces des Nations Unies, FINUL, qui affrontait les influences ou les réseaux syriens ou autres qui voulaient éliminer la présence occidentale. Il y a la prise de l'intervention dans le cas des Malouines, en 82, où François Mitterrand prend position pour la Grande-Bretagne, non pas par préférence idéologique pour la Grande-Bretagne, mais parce que ce sont les militaires argentins qui ont attaqué, qui ont agressé. Et Mitterrand, il y a toujours les années 30 derrière. Donc la remise en cause des frontières par la force, la modification des équilibres historiques par des groupes ou des minorités qui veulent mettre la main sur d'autres pays, il y a quand même des réflexes qui jouent tout de suite par rapport à ça. On le verra dans plusieurs cas après. Le Tchad, quand François Mitterrand est élu, l'influence de Kadhafi s'est étendue sur quasiment tout le Tchad. C'est pas un enjeu extraordinaire, mais Mitterrand disait souvent qu'il fallait pas que l'équilibre multiséculaire entre les Arabes et les Africains soit rompu, parce que c'était source de drames, de dangers. Et dans l'affaire de la Yougoslavie, c'est la question de la gestion de la désintégration de la Yougoslavie. Alors, avec le recul, si la communauté internationale existait, si c'était juste une sorte de quartier général où on regarde les problèmes qui vont venir, s'ils n'avaient rien d'autre à faire que ça, ils auraient dû se dire dès le lendemain de la mort de Tito, donc en 80, que ce sorcier incroyable qu'était Tito, qui avait réussi à faire cohabiter les différents morceaux des peuples yougoslaves, qui en plus étant croate, se méfiant des Serbes, avait réussi à saucissonner les Serbes dans plusieurs états, on aurait pu comprendre assez vite que les Serbes allaient essayer de se venger de ça en se regroupant, donc en devenir trop puissants, dangereux, etc. Bon. Mais les différents responsables des grands pays avaient mille autres chats à fouetter dans toute cette période, entre 80 et 90, notamment la fin des grands systèmes Est-Ouest. Et donc on est arrivé au moment où le comportement des Yougoslaves s'est mis à tout aggraver, parce que les premiers responsables de la désintégration de la Yougoslavie, ce sont les Yougoslaves, les Serbes, mais aussi beaucoup les Croates. Alors la prise de conscience a lieu assez tard, un peu partout, pas qu'en France. La France n'est pas seule à être chargée de ça. Hein. Et après des élections qui montrent la polarisation dans chaque endroit de la Yougoslavie, et il y a eu, dans toute la période des conflits yougoslaves, vous me parliez de 92, quand Mitterrand veut rompre le blocus sur Sarajevo installé par les forces serbes, il y a eu des groupes à Paris influents, dans le monde médiatique, on va dire, intellectuelo-médiatique, demandant que la France intervienne. Donc la controverse, là, elle est sur une intervention qui était demandée, qui n'a pas eu lieu. C'est l'inverse d'autres controverses, vous voyez. Alors il y avait des groupes.
Les deux se sont télescopés.
Là, ça dépend des sujets, des pays. Donc certains voulaient qu'on intervienne pour défendre les Croates, d'autres pour défendre la Bosnie, avec l'idée qu'il y avait une sorte de coexistence merveilleuse en Bosnie. En fait, il y avait des Serbes, des Croates et des musulmans en Bosnie. Il n'y a pas de Bosniaques en tant que tel, sauf à Sarajevo, qui était un petit miracle isolé. Donc il y a toute une pression qui a mis François Mitterrand sous pression de la disons, de tous les courants de l'ingérence, beaucoup à gauche, mais pas qu'à gauche. Donc fidèle à l'idée que la France, au-delà de ses intérêts immédiats, doit jouer un rôle particulier par rapport à ça. D'autant que c'est tout près de Paris, donc c'était censé donner des éléments particuliers. Donc dans l'affaire de Sarajevo, moi j'ai trouvé Mitterrand très courageux, il a pris un vrai risque physique. Plusieurs fois ça lui est arrivé. Il a rompu le blocus, mais il n'a pas du tout rendu service aux Serbes. Et Mitterrand a résisté constamment aux demandes d'intervention en disant « mais on ne va pas intervenir seul ». Comment la France, comment un président peut engager la France toute seule dans ce conflit, soutenu par absolument personne? Et d'ailleurs, quand les États-Unis interviendront finalement, ce sera pour terminer la guerre, les fameux accords de Dayton, sauf dans l'affaire du Kosovo qui va rebondir après, terminer la guerre sur la base des terrains conquis par les uns et les autres. Donc ils vont simplement photographier, en disant là c'est serbe, là c'est croate, là c'est musulman bosniaque. Donc les reproches, on peut regretter dans l'idéal que la France ne soit pas une espèce de superpuissance morale et éthique capable d'intervenir partout. C'est tout le long courant Bachelot-Kouchnerien qui a été très, très honorable philosophiquement et très influent dans les médias, mais qui supposerait des moyens militaires géants, une légitimité très sûre et des opinions qui comprennent et qui suivent, qui ne laissent pas en cours de route. Voyez, mais on n'avait pas du tout ces conditions dans l'affaire yougoslave.
Et est-ce qu'à cette époque, vous étiez exactement sur la même longueur d'onde que le président ?
Alors, à cette époque, j'étais vraiment tourmenté, comme tout le monde à l'Élysée, y compris lui, sur est-ce qu'on ne peut pas faire plus ? Mais je comprenais la répugnance de fond à ne pas engager la France seule dans un conflit. Dans quel but ? Pour aller imposer militairement la coexistence à tous ces peuples qui rêvaient d'en découdre, de corriger des drames historiques antérieurs, c'était insensé. Donc j'ai toujours été très très réticent par rapport à ça. Il y a des cas où l'ingérence s'impose, il y a des cas où elle est justifiée, il y a des cas où elle aurait dû avoir lieu, mais quand même, j'avais déjà le réflexe consistant à dire, mais qui va s'ingérer chez qui, au nom de quoi, dans quel but ? Bon, donc l'idée que on crée une espèce d'émotion dominante, à partir d'horreurs réelles, hein, pour qu'il y ait tout un système d'opinion médiatique qui s'impose au gouvernement, qui est obligé de s'engager, tout ça... Déjà, alors, longtemps après, on a vu que ça amenait à des déconfitures complètes, mais déjà à l'époque, j'étais très réticent, mais pas du tout par manque d'humanité, enfin, il faut que les gens le comprennent, ça, c'est le vieux débat entre les deux morales de Weber, quoi. L'éthique de responsabilité, l'éthique de conviction. Moi, j'ai toujours été, même jeune, du côté de l'éthique de responsabilité. Surtout quand on est au pouvoir, quand on a une décision qui engage un peuple, on est responsable de ce que ça entraîne, quand même. Bon, donc, mais c'était pénible à... Oui, c'était pénible et douloureux, bien sûr, à vivre. Donc c'est évident que si on avait pu imposer des garanties de ce que de bon intérêt est tenté, donc des garanties de minorité permettant aux uns et aux autres d'accepter de vivre dans autre chose qu'à la Yougoslavie, qui est un système très intelligent, hein, parce qu'au-delà des États serbes ou croates ou autres, il y avait un système de gouvernance fédérale où toutes les ethnies, tous les peuples, toutes les minorités étaient représentées quelque part. Tito était un grand homme. Hein. C'est un despote aussi violent à certains moments, mais c'est un grand homme sur la question de la coexistence des peuples.
Vous parliez de l'intervention américaine, mais Jacques Chirac, avant les Américains, lui, a fini par donner de la force contre les Serbes quand il a envoyé les militaires français reprendre le pont de Verbania. Donc il y a eu une rupture de politique et certains ont considéré à l'époque que Mitterrand est plutôt représentait plutôt un homme du passé, incapable de rompre avec les amitiés traditionnelles françaises, alors que l'époque était tout à fait nouvelle.
Alors moi, je l'ai évidemment pas vécu comme ça, mais il y a toujours eu des critiques sur Mitterrand, homme du passé, par des gens qui, à mon avis, n'ont rien vu. Hein. Je pense qu'ils ont en général beaucoup moins vu que ce qu'a vu Mitterrand, et quand on revient à ces textes, c'est tout à fait frappant. L'amitié franco-serbe, c'était une vieille affaire de la guerre de 14-18, ça n'a aucun rapport avec l'époque contemporaine. Et moi, je peux témoigner qu'il y avait de la part de Mitterrand aucune espèce d'indulgence, il n'était pas pro-serbe au sens partisan du terme, aucune indulgence sur Milosevic, mais c'est un homme qui cherchait les moins mauvaises solutions par rapport au conflit. Il voyait bien que l'éclatement de la Yougoslavie allait entraîner le réveil des différentes minorités qui seraient terrorisées à l'idée de passer sous la coupe d'un État où ils se sentaient menacés, suspectés, etc. Donc ça, c'est la vision historique. C'est pas du tout une vision dépassée. Le monde actuel est rempli de choses comme ça. Mais c'était un des épisodes, qu'il y en a eu beaucoup dans les 30 années, de contraste entre les moyens réels, l'intervention réelle, le monde réel, et l'idée qu'on se fait de la mission de la France, qui est tout à fait particulière, avec des gens qui veulent quand même engager le pays, même si on n'est pas capable de suivre derrière, vous voyez. Donc la position était, je crois, prudente. Et quant à Chirac, il a très bien fait dans l'affaire du pont que vous citez, mais ça n'a rien changé à la suite. Et d'ailleurs, le changement avait eu lieu déjà avant, pendant la cohabitation Mitterrand-Balladur, Juppé ministre, et je dois rendre hommage à Alain Juppé sur ce point. Il avait convaincu Mitterrand qu'il fallait accepter qu'il y ait des frappes de l'OTAN sur des positions serbes. Ça a déjà eu lieu avant, en fait. Je crois que c'est en janvier d'avant, alors que l'action très justifiée qu'a menée Jacques Chirac pour stopper l'humiliation des militaires français qui avaient été pris en otage là, c'est donc après son élection. Donc il y a eu une inflexion. Mais l'obsession de Mitterrand, c'était, encore une fois, c'est marqué par l'histoire, ça, de ne pas ajouter de la guerre à la guerre, dans une guerre improbable, dont l'objectif n'était pas connu et que l'opinion n'aurait pas soutenu. Mais il était capable d'assumer la guerre du Golfe, vous voyez, donc c'est tout à fait différent, parce qu'il y a plein d'autres interventions. L'affaire du Golfe, c'est un modèle, si je puis dire. C'est toujours pénible, la guerre n'est jamais un modèle en soi, mais là, c'est un cas très intéressant, parce que de toutes les interventions occidentales qui ont eu lieu depuis la fin de l'URSS, depuis que les Occidentaux, quand ils se sont pensés maîtres du monde, c'est la moins contestable. Sur le plan de la justification, de la légitimité, du vote du Conseil de sécurité des Nations Unies, de la mise en œuvre, et du fait de s'être arrêté, en plus. Et je me rappelle encore de l'appel du président Bush père à Mitterrand en disant « Est-ce qu'on va plus loin maintenant ?» Parce qu'il y avait la tentation aux États-Unis, qui reviendra longtemps après, avec la guerre débile de 2003, d'aller à Bagdad. Et Bush consultait souvent Mitterrand. Mitterrand lui a dit « Il ne faut pas aller au-delà, vous allez perdre toute la légitimité, c'est ce qui est fait irréprochable. Conseil de sécurité, au-delà, c'est vous entrez dans un territoire inconnu. » Mais celle-là, il n'y a pas de controverse sur le Golfe.
On parle des interventions, Hubert Védrine. Est-ce qu'il y a une politique étrangère de droite et une politique étrangère de gauche?
Il y a des dominantes, mais la gauche ou la droite des 20 ou 30 dernières années avait tellement de divergences sur à peu près tous les points, à commencer par l'Europe, jusqu'où faut-il élargir, jusqu'où faut-il intégrer, sur la relation avec les États-Unis, sur... En Afrique, est-ce qu'il faut rien faire ou intervenir tout le temps ou à moitié? Qu'est-ce qu'on fait au Proche-Orient? Et donc, dans chaque grande famille politique, il y avait des positions tout à fait contraires, disons. Donc, c'est impossible de dire il y a globalement une politique étrangère de gauche, politique étrangère de droite. C'est pas comme ça. Mais déjà, j'avais à répondre à cette question quand j'étais ministre. Ma réponse était déjà la même. Elle serait encore plus la même aujourd'hui.
Alors le deuxième abcès, si on peut parler ainsi, de la période, c'est le Rwanda. On reproche au pouvoir de l'époque son aveuglement sur le Rwanda, où le génocide en 1994 a fait 800 000 morts, essentiellement des Tutsis. Avec le recul aujourd'hui, pensez-vous que la politique française fut adéquate ?
Une autre politique possible, c'était de dire, quand Kagame attaquait en 90, ce qui a déclenché toute la suite, de dire, après tout, c'est pas nos oignons. Hein. On n'a pas d'obligation, on a un accord de coopération, mais on n'a pas d'obligation vraie. C'est très loin, très compliqué, il n'y a que des coups à prendre en allant s'en mêler. Ça aurait pu être un autre choix. Vous ne me poseriez même pas la question. Il y aurait eu à l'époque quelques articles pour dire que c'était indigne de laisser de grands massacres se dérouler en Afrique, mais donc il y a une question de choix au départ, en effet. Mais moi, je respecte tout à fait, même si j'ai pris aucune part aux décisions, notamment opérationnelles sur l'Afrique à l'époque, je respecte tout à fait son raisonnement de 90. Et beaucoup de gens, dans les gens qui attaquent sans arrêt, qui dénoncent la France, se concentrent que sur certains aspects particuliers de l'opération turquoise de 94, maintes fois démentis, mais les démentis ne les intéressent pas. Mais le vrai point de départ, c'est 90. Et c'est quand Paul Kagame, très très brillant stratège, qui a créé en Ouganda un parti politique, le FPR, pour redonner à la minorité Tutsi le pouvoir au Rwanda, qu'ils avaient eu depuis la colonisation belge, allemande, puis belge, même si on pourrait même remonter avant. Donc il monte ce parti, c'est très encouragé par l'Ouganda, où il s'est réfugié, qu'un certain nombre de Tutsis, après les grands massacres de 62, quand les Belges sont partis. Donc il y a une volonté de reconquête. Alors ça, c'est très intéressant, parce que à peu près partout, sauf en France ou à Paris, il y a énormément de travaux maintenant qui ont été menés pour montrer que c'est là d'où part toute la suite, la tragédie monstrueuse du génocide. Vous voyez, c'est l'attaque de Kagame qui veut reprendre le pouvoir en 90. Le Rwanda, ça reste une plaie purulente quand même. Mais ce qui est frappant, c'est que disons, la confrontation n'a jamais eu lieu. Parce que les gens qui attaquent la France ou qui dénoncent la France pratiquent une sorte de guérilla médiatique astucieuse de leur point de vue. Ils lancent des accusations terribles, sortis du contexte, et après, ils disparaissent dans la jungle, la jungle moderne. Et c'est impossible d'avoir la confrontation. Donc en 90, quand Mitterrand décide qu'il ne peut pas laisser une micro-minorité attaquer un pays avec l'armée du pays d'à côté, même s'il n'a pas d'engagement obligatoire. Il pense que la garantie de la France de stabilité, donc de paix, du Sénégal à Djibouti ne vaudra plus rien. C'est typiquement gaulien, ça. Comme il l'a fait au Tchad, d'ailleurs, ou au Malouine, ou dans l'affaire de la guerre du Golfe. Mais les gens ne relient pas tout ça. Il prend cette décision. Il y a deux volets dans cette politique. Stopper les attaques militaires de l'UFPR appuyé par l'armée de l'Ouganda et, grâce à ça, tordre le bras des autorités du Rwanda pour qu'elles acceptent de régler ce qu'on appelle la question des réfugiés politiques à l'époque. Permettre aux Tutsis réfugiés en Ouganda de revenir dans des conditions correctes. Et c'est la politique menée en 90, 91, 12, 13. 13, il y a les élections. Cohabitation Balladur qui assume cette politique. Et Juppé, qui prend ça vraiment très à cœur, et qui obtient, ce qui était le vrai objectif de l'intervention depuis le début, qui obtient la signature des accords d'Arusha, dans lequel on tord le bras des Hutus, qui se sont entre-temps radicalisés, qui n'étaient pas du tout génocidaires en 90. L'attaque de Kagame n'est pas justifiée parce qu'il y a un régime qui prépare un génocide, ça c'est une reconstruction après. Quand Kagame s'est senti menacé par l'enquête de Bruguière, il a fait inventer cette thèse, qui a été relayé par énormément d'idiots utiles, comme aurait dit Lénine, vous voyez. Et donc on arrive à Arusha, et à l'époque, la France s'est dit, la France de la cohabitation, s'est dit, c'est formidable, on a arrêté la guerre civile. Alors, comme la controverse méthodique entre les arguments réquisitoires, qu'il faut entendre quand même, hein, et le reste n'a jamais eu lieu, ça continue. Ça continue, il y a énormément de gens qui ont trouvé énormément. Enfin, ils sont bruyants plutôt que nombreux, en fait. Ils ont trouvé une occasion de mettre en cause la politique de la France, la politique coloniale, la politique en Afrique, il y a tout un... Donc c'est devenu, à mes yeux, le cas le plus frappant du masochisme français contemporain.
Vous-même, Hubert Védrine, vous avez été accusé par certains d'avoir participé à la décision de réarmer les génocidaires en 1994, parce que vous étiez secrétaire général de l'Élysée à l'époque. Est-ce que la France a sous-estimé l'ampleur, la violence du génocide à l'époque ?
Alors d'abord, les accusations, c'est n'importe quoi. C'est que quand les accusateurs qui attaquaient les chefs militaires ont finalement été condamnés en diffamation, plusieurs journalistes que vous connaissez très bien, ils ont essayé de se reporter sur quelqu'un d'autre. Ils ont dit « Ah oui, mais le secrétaire général qui est là pendant la cohabitation, en disant des choses qui sont complètement absurdes pour quelqu'un qui a fait 6 mois de sciences politiques. » On sait très bien qu'un secrétaire général de l'Élysée, a supposé qu'il y a eu cette intention au débile, on ne sait pas pourquoi, n'a pas de pouvoir militaire opérationnel, a fortiori en cohabitation. Enfin, ça repose sur rien. Rien. C'est un leurre, en fait. Ça n'a aucun contenu. D'autre part, l'histoire de la France qui sous-estime, c'est exactement l'inverse, depuis le début. Mitterrand, grâce à son expérience très ancienne de ministre de la France d'Outre-mer, qui connaissait bien les horreurs de 62, quand énormément de Tutsis ont été en effet massacrés, d'où certains sont partis en Ouganda. Mitterrand savait très bien que la guerre civile lancée par Kagame pour prendre le pouvoir, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens, allait déclencher de grands massacres. Personne n'imaginait les génocides dans l'ampleur qu'il a pris, mais il savait très bien. Donc on ne peut pas dire qu'il sous-estimait, puisqu'il est le seul à avoir vu ça. Et la France est le seul pays au monde à avoir dit « il y a un danger énorme ». Soutenu d'ailleurs par la Belgique assez longtemps, pas désapprouvé par les Américains. Donc les arguments d'après, ne veulent rien dire. C'est une course de vitesse à partir de là. Bien sûr, dans chaque camp, il y a des intentions de plus en plus violentes. Et plus Kagame avance et massacre, ce qui est très bien établi dans les rapports de Judy Rever à partir des archives de l'ONU, mais il y a toute une espèce d'action pour empêcher que son livre soit traduit en français, mais c'est aussi dans le que sais-je de l'expert belge, on le trouve partout. Kagame avance, massacre, le système devient en effet génocidaire. Ils se disent, mais s'ils reviennent, ces gars, ils vont nous piquer le bétail, les terres, etc. Il faut les liquider avant qu'ils arrivent. Il y a une partie du régime qui devient dingue dans l'autre sens. Ça deviendra la radio des mille communes. Et au sein du système Hutu, à cause de la pression de la France, qui dit non, vous devez, on vous impose un compromis. Mais pourquoi on est majoritaire et tout ça? On vous l'impose. Ça donne à Roucha. Donc la France n'est jamais en train de soutenir un régime qui prépare un génocide. D'abord, c'est pas le cas en 90, et c'est de moins en moins le cas après, puisque la France fait pression dans le sens inverse. Donc tous les gens qui disent, mais comment, mais vous avez ignoré ceci, cela. Mais non, c'est précisément parce que la France est très consciente de l'engrenage vers le pire que la France augmente ses pressions pour imposer un accord, pour stopper ça. Donc c'est un argument qui à mon avis, n'est pas pertinent.
Je vous reposerai la question de manière un peu différente. Est-ce que la France a commis des erreurs?
Alors, elle a commis des erreurs, à mon avis, mais pas du tout celles qu'on lui reproche. Pas du tout.
Lesquelles?
D'abord, on peut discuter de la décision de Mitterrand à l'origine. Hein. S'il avait été égoïste, froid, cynique et indifférent, il aurait dit « je laisse la guerre civile se dérouler ». Bon, il y aurait une guerre monstrueuse, mais encore une fois, on n'en parlerait plus. Donc ça, c'est une première question. Mais une fois qu'il s'est engagé, moi, je trouve qu'il n'y a pas d'erreur jusqu'en 93, les accords d'Arusha. Je pense qu'il y a une erreur après. Je pense qu'il ne fallait pas retirer les troupes après Arusha. Mais vous voyez, ce n'est pas du tout les critiques habituelles. Mais dès lors qu'on était engagé, dès lors qu'on avait imposé les accords d'Arusha à des Hutus qui, en fait, ne voulaient rien lâcher, et à Kagame qui, en réalité, voulait tout prendre, il fallait pas se retirer avec soulagement. C'est-à-dire, on a besoin d'une force internationale énorme pour imposer les accords en question. Donc, il fallait obtenir l'appui, si c'était possible, des autres, mais la plupart des autres pays s'en fichaient complètement. Donc ça, c'est une erreur vraie. Après, est-ce que la France a eu raison de revenir pour faire l'opération humanitaire turquoise uniquement après avoir eu l'autorisation du Conseil de sécurité, où les Américains ont tout fait pour qu'il n'y ait pas d'opération avant que Kagame ait tout conquis. Et les autres pays disaient, on ne voulait pas être mêlés à tout ça. Moi, je pense qu'elle n'a pas eu tort sur un plan humain et déontologique, enfin, sauf quand on voit les polémiques extravagantes à ce sujet, on peut se poser la question. Mais ça se défend tout à fait. Et en réalité, les choses auraient pu évoluer autrement. Moi-même, en tant que ministre, j'ai rencontré deux fois Kagame. Si elle avait cru le quart du dixième de ce qui fait raconter par certains perroquets à Paris, il ne m'aurait pas reçu. Je l'ai vu en 2001 et 2002, une fois tout seul et une fois avec mon collègue britannique. Et c'est après que ça s'est vraiment durci. Parce que quand le juge Bruguière, qui enquêtait parce qu'il y avait des personnels français dans l'avion qui étaient abattus, des deux présidents, donc les familles ont porté plainte, donc il y a une procédure de Bruguière, et quand Bruguière a commencé à dire « il me semble bien que l'attentat contre l'avion a été fait par les forces de Kagame », alors là, pour se protéger, Kagame a fait rédiger un rapport typiquement stalinien, un réquisitoire typiquement stalinien, qui s'appelle le rapport Mussio, dans lequel vous avez la matrice de toutes les attaques, qui ne cessent de circuler depuis, en fait. D'ailleurs, sans l'affaire de l'avion, moi, j'ai même pas de religion établie. Est-ce que c'est les Hutus qui l'ont descendu, ou les Tutsis? Pour moi, ça revient au même, parce que dans les deux cas, ce sont des extrémistes qui voulaient stopper la politique de compromis de la France. Donc dans les deux cas, c'est honorable pour la France. Donc s'il y a une erreur à reconnaître, selon moi, hein, mais Alain Juppé vous dirait la même chose. Hein. Tout à fait, c'est pas à droite-gauche, là. Et Balladur vous dirait la même chose. S'il y a une erreur, c'est le fait de passer de donner les moyens d'imposer la mise en œuvre des accords d'Arusha.
Alors on approche de la fin du second septennat de François Mitterrand. Je voudrais vous demander comment vous avez vécu cette dernière période de François Mitterrand quand il était malade.
Alors, moi, j'étais secrétaire général de l'Élysée à partir de 91. Donc, en effet, c'est pas la partie la plus facile. 91 jusqu'à 95. Mais, bon, alors, il y a ce lien historique, profond, ancien, cette fidélité, cette vénération, on va dire. Et au fond, la mission que François Mitterrand m'avait confiée comme secrétaire général, c'était de pouvoir aller au terme de sa mission et qu'il soit respecté en tant que personne et en tant que chef de l'État, en tant que président de la République. C'est ça ma mission. Et il y a les épisodes gouvernement Cresson, gouvernement Bérégovois, deuxième cohabitation, Balladur-Juppé, avec donc le plein accord que j'ai rappelé sur la question du Rwanda et le travail assez remarquable de Juppé. Bon, c'est une période, c'est pas la plus gaie, naturellement. C'est pas la plus gaie, c'est la fin, mais on est fiers d'avoir servi cet homme-là, en fait. Et quand arrivera le moment du départ, le dernier jour, il y a une photo qui m'émeut, c'est-à-dire, il y a François Mitterrand qui est sur le perron, moi je suis un peu en arrière, tous les autres sont partis. Et Jacques Chirac arrive, accompagné de Dominique de Villepin, qui va être le premier secrétaire général. Voilà. À ce moment-là, c'est le soulagement et la fierté qui l'emporte. Le fait d'avoir accompagné cet homme-là, que beaucoup de Français ont à un moment donné détesté, mais qu'ils ont adoré à d'autres moments, et qui finit par incarner à un moment donné telle ou telle composante de la France, précisément parce qu'il avait des origines culturelles plutôt de droite, puis qu'il a évolué vers la gauche. Bon, c'est un, vous voyez, il y a une sorte de reconnaissance, ça miroite par rapport à ça. L'idée de l'avoir accompagné, y compris pendant la période de la maladie, qui n'a pas eu tellement d'impact sur mon job, moi, en fait. Parce que même quand Mitterrand souffrait vraiment, il est toujours resté très 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 lucide. Ce qu'ont raconté très bien d'ailleurs les visiteurs qui ont été le voir à avenue Frédéric Leplay dans les quelques mois qui lui restaient à vivre après. Donc il est resté ultra vigilant, vif, sardonique, jusqu'à la fin. Donc c'était ça, mais c'est la fierté en fait, la fierté. Et d'ailleurs, finalement, il aurait été le seul président des cinq républiques à accomplir deux septennats. Alors je sais bien que des gens vont dire, oui, mais à quoi ça sert tout ça? Mais les gens de gauche classiques, on va dire les militants socialistes du début, sont surtout fidèles à la période 80-83. Les pro-européens aiment beaucoup à partir de 83-84. Mais moi, je rappelle que dans les grands enjeux internationaux, et sa politique, je crois, très intelligente, c'est dans le deuxième septennat. Et la grande décision historique arrachée à Kohl d'accepter le principe de la monnaie unique, ce qui est quand même un renoncement incroyable de la part des Allemands. C'est le renoncement aux marques. Bon, tout ça, c'est le second septennat. Donc dans ces domaines-là, c'est ce nous-là, en fait. Et vous savez, ça paraît évident avec le recul, ça s'est bien passé, l'URSS a disparu, aucun problème. Ça aurait pu tourner très très mal. Alors les relations personnelles ne jouent pas toujours un rôle déterminant, mais dans cette période-là, la relation Mitterrand, George Bush père, Gorbatchev, Kohl, même Thatcher en fait, et Major, là ça a été déterminant je crois. Et ça c'est dans le second septennat.
Merci Hubert Védrine.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Isabelle Lasserre avec Hubert Védrine. À voix nue, réalisation Julie Béressi, prise de son Sandrine Malon, attachée de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.